Cela même à quoi la philosophie consent en général, cette dernière recette qu'elle ordonne à toutes sortes de nécessités, qui est de mettre fin à la vie, que nous ne pouvons supporter. Plaquette, parée, elle te plaît, obéit. Non plaquette, elle ne te plaît pas. Quoi cum quae vis exige, va-t'en par le chemin que tu désires. Et ce mot des Grecs convive, qu'ils y appliquent, aut bibat, aut habeat, qu'ils boivent ou qu'ils s'en aillent, qui sonne plus sortablement la langue d'un Gascon qu'en celle de Cicéron, qui change volontiers en V le B, aut vivat, aut habeat. C'est ce que disait Antisthène, qu'il fallait faire provision ou de sens pour entendre ou de licole pour se pendre. Et ce que Chrysippus alléguait sur ce propos du poète Tyrté, de la vertu ou de mort approchée. Et Cratès disait que l'amour se guérissait par la faim, sinon par le temps, et à qui ces deux moyens ne plairaient, par la hargne. Celui, Sextius, duquel Sénèque et Plutarque parlent avec une si grande recommandation, s'étant jeté, toute chose laissée à l'étude de la philosophie, délibéra de se précipiter en la mer, voyant le progrès de ses études trop tardif et trop long. Il courait à la mort au défaut de la science. Voici les mots de la loi sur ce sujet. Si d'aventure il survient quelque grand inconvénient qui ne se puisse remédier, le port est prochain. Et se peut-on sauver à nage hors du corps, comme hors d'un esquif qui fait tôt, car c'est la crainte de mourir, non pas le désir de vivre, qui tient le fol attaché au corps. Comme la vie se rend par la simplicité plus plaisante, elle se rend aussi plus innocente et meilleure, comme je commençais tantôt à dire. Les simples, dit saint Paul, et les ignorants s'élèvent et se saisissent du ciel. Et nous, à tout notre savoir, nous plongeons aux abîmes infernaux. Je ne m'arrête ni à Valentien, ennemi déclaré de la science et des lettres, ni à Licinius, tous deux empereurs romains, qui les nommaient le venin et la peste de tout état politique, ni à Mahomet qui, comme j'ai entendu, interdit la science à ses hommes. Mais l'exemple de ce grand Lycurgue et son autorité doit certes avoir grand poids, et la révérence de cette divine police lacédémonienne, si grande, si admirable, et si longtemps fleurissante en vertu et en bonheur, sans aucune institution ni exercice de l'être. Ceux qui reviennent de ce monde nouveau, qui a été découvert du temps de nos pères par les Espagnols, nous peuvent témoigner combien ces nations, sans magistrats et sans loi, vivent plus légitimement et plus règlement que les nôtres, où il y a plus d'officiers et de lois qu'il y a d'autres hommes et qu'il y a d'actions. C'était ce que disait un sénateur romain des derniers siècles, que leurs prédécesseurs avaient la laine puante à l'ail et l'estomac musqué de bonne conscience, et qu'au rebours, ceux de son temps ne sentaient au dehors que le parfum, mais puant au-dedans, toutes sortes de vices, c'est-à-dire, comme je pense, qu'ils avaient beaucoup de savoir et de suffisance et grand faute de prudomie. L'incivilité, l'ignorance, la simplesse, la rudesse s'accompagnent volontiers de l'innocence. La curiosité, la subtilité, le savoir traînent la malice à leur suite. L'humilité, la crainte, l'obéissance, la débonnaireté, qui sont les pièces principales pour la conservation de la société humaine, demandent une âme vide, docile et présumant peu de soi. Les chrétiens ont une particulière connaissance combien la curiosité est un mal naturel et originel en l'homme. Le soin de s'augmenter en sagesse et en science, ce fut la première ruine du genre humain. C'est la voie par où il s'est précipité à la damnation éternelle. L'orgueil est sa perte et sa corruption. C'est l'orgueil qui jette l'homme à quartier des voies communes, qui lui fait embrasser les nouveletés, aimer mieux être chef d'une troupe errante et dévoyée au sentier de perdition, aimer mieux être régent et précepteur d'erreurs et de mensonges, que d'être disciple en l'école de vérité, se laissant mener et conduire par la main d'autrui à la voie battue et droiturière. C'est à l'aventure ce que dit ce mot grec ancien, que la superstition suit l'orgueil et lui obéit comme à son père grec. Ô Cuidé, combien tu nous empêches ! Après que Socrate fut averti que le dieu de sagesse lui avait attribué le nom de sage, il en fut étonné. Et, se recherchant et secouant partout, n'y trouvant aucun fondement à cette divine sentence, il en savait de juste, tempérant, vaillant, savant comme lui, et plus éloquent et plus beau, et plus utile au pays. Enfin, il se résolut qu'il n'était distingué des autres et n'était sage que parce qu'il ne se tenait pas tel, et que son Dieu estimait bêtise singulière à l'homme l'opinion de science et de sagesse, et que sa meilleure doctrine était la doctrine de l'ignorance, et la simplicité sa meilleure sagesse. La sainte parole déclare misérable ceux d'entre nous qui s'estiment. Bourbe et cendre, leur dit-elle, qu'as-tu à te glorifier ? Et ailleurs, Dieu a fait l'homme semblable à l'ombre, de laquelle qui jugera quand par l'éloignement de la lumière elle sera évanouie. Ce n'est rien que de nous. Il s'en faut tant que nos forces conçoivent à la hauteur divine, que des ouvrages de notre Créateur, cela porte mieux sa marque et son mieux sien que nous entendons le moins. C'est aux chrétiens une occasion de croire que de rencontrer une chose incroyable. Elle est d'autant plus selon raison qu'elle est contre l'humaine raison. Si elle était selon raison, ce ne serait plus miracle. Et si elle était selon quelque exemple, ce ne serait plus chose singulière. Et Platon estime qu'il y ait quelques vices d'impiété à trop curieusement s'enquérir et de Dieu et du monde et des causes premières des choses. Nous disons bien « puissance, vérité, justice », ce sont paroles qui signifient quelque chose de grand. Mais cette chose-là, nous ne la voyons aucunement, ni ne la concevons. Nous disons que Dieu craint, que Dieu secourousse, que Dieu aime. Mais ce sont toutes agitations et émotions qui ne peuvent loger en Dieu selon notre forme, ni nous l'imaginer selon la sienne. C'est à Dieu seul de se connaître et interpréter ses ouvrages. Et le fait en notre langue, improprement pour s'avaler et descendre à nous, qui sommes à terre couchés. La prudence, comment lui peut-elle venir, qui est l'élite entre le bien et le mal, vu que nul mal ne le touche. Quoi la raison et l'intelligence desquelles nous nous servons pour par les choses obscures arriver aux apparentes, vu qu'il n'y a rien d'obscur à Dieu. La justice, qui distribue à chacun ce qui lui appartient, engendrée par la société et communauté des hommes, comment est-elle en Dieu ? La tempérance, comment ? Qui est la modération des voluptés corporelles qui n'ont nulle place en la divinité ? La fortitude à porter la douleur, le labeur, les dangers lui appartiennent aussi peu, ces trois choses n'ayant nul accès près de lui. Alors pourquoi Aristote le tient également exempt de vertu et de vice ? La participation que nous avons à la connaissance de la vérité, quelle qu'elle soit, ce n'est point par nos propres forces que nous l'avons acquise. Dieu nous a assez appris cela par les témoins qu'il a choisis du vulgaire, simple et ignorant, pour nous instruire de ses admirables secrets. Notre foi ce n'est pas notre acquet, c'est un pur présent de la libéralité d'autrui. Ce n'est pas par discours ou par notre entendement que nous avons reçu notre religion, c'est par autorité et par commandement étranger. La faiblesse de notre jugement nous y aide plus que la force, et notre aveuglement plus que notre clairvoyance. C'est par l'entremise de notre ignorance, plus que de notre science, que nous sommes savants de divin savoir. Ce n'est pas merveille si nos moyens naturels et terrestres ne peuvent concevoir cette connaissance supernaturelle et céleste. Apportons-y seulement du nôtre, l'obéissance et la subjection. Car, comme il est écrit, « Je détruirai la sapience des sages et abattrai la prudence des prudents. » Où est le sage? Où est l'écrivain? Où est le disputateur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas abêti la sapience de ce monde? Car, puisque le monde n'a point connu Dieu par sapience, il lui a plu par la vanité de la prédication sauver les croyants. Si me faut-il voir enfin, s'il est en la puissance de l'homme de trouver ce qu'il cherche, et si cette quête qu'il a employée depuis tant de siècles l'a enrichi de quelques nouvelles forces et de quelques vérités solides. Je crois qu'il me confessera, s'il parle en conscience, que tout l'acquis qu'il a retiré d'une si longue poursuite, c'est d'avoir appris à reconnaître la faiblesse. L'ignorance qui était naturellement en nous, nous l'avons par longue étude confirmée et avérée. Il est advenu aux gens véritablement savants ce qui advient aux épis de blé. Ils vont s'élevant et se haussant la tête droite et fière tant qu'ils sont vides. Mais quand ils sont pleins et grossis de grains en leur maturité, ils commencent à s'humilier et baisser les cornes. Pareillement, les hommes, ayant tout essayé, tout sondé, et n'ayant trouvé en cet amas de science et provision de tant de choses diverses, rien de massif et de ferme, et rien que vanité, ils ont renoncé à leur présomption et reconnu leurs conditions naturelles. C'est ce que Velleius reproche à Cotta et à Cicéron, qu'ils ont appris de Philo, n'avoir rien appris. Phérécidès, l'un des sept sages, écrivant à Thalès, comme il expirait, « J'ai, dit-il, ordonné aux miens, après qu'ils m'auront enterré, de te porter mes écrits. S'ils contentent toi et les autres sages, publie-les, sinon supprime-les. Ils ne contiennent nulle certitude qui me satisfasse à moi-même. Aussi ne fais-je pas profession de savoir la vérité, ni d'y atteindre. J'ouvre les choses plutôt que je ne les découvre. Le plus sage homme qui fut donc, quand on lui demanda ce qu'il savait, répondit qu'il savait cela, qu'il ne savait rien. Il vérifiait ce qu'on dit, que la plus grande part de ce que nous savons est la moindre de celle que nous ignorons, c'est-à-dire que ce même que nous pensons savoir, c'est une pièce bien petite de notre ignorance. » Nous savons les choses en songe, dit Platon, et les ignorons en vérité. Cicéron même, qui devait au savoir tout son vaillant, Valérius dit que sur sa vieillesse, il commença à désestimer les lettres. Et pendant qu'il les traitait, c'était sans obligation d'aucun parti, suivant ce qui lui semblait probable, tantôt en l'une secte, tantôt en l'autre, se tenant toujours sous la dubitation de l'Académie. J'aurais trop beau jeu si je voulais considérer l'homme en sa commune façon et en gros, et le pourrais faire pourtant par sa règle propre qui juge la vérité non par le poids des voix, mais par le nombre. Laissons là le peuple qui ne se sent point, qui ne se juge point, qui laisse la plupart de ses facultés naturelles oisives. Je veux prendre l'homme en sa plus haute assiette. Considérons-le en ce petit nombre d'hommes excellents et triés qui, ayant été doué d'une belle et particulière force naturelle, l'ont encore roidi et aiguisé par soin, par étude et par art, et l'ont monté au plus haut point de sagesse où elle puisse atteindre. Ils ont manié leur âme à tout sens et à tout biais, l'ont appuyée et estançonnée de tout le secours étranger qui lui a été propre, et enrichie et ornée de tout ce qu'ils ont pu emprunter pour sa commodité du dedans et au dehors du monde. C'est en eux que loge la hauteur extrême de l'humaine nature. Ils ont réglé le monde de police et de loi, ils l'ont instruit par arts et sciences, et instruit encore par l'exemple de leurs mœurs admirables. Je ne mettrai en compte que ces gens-là, leurs témoignages et leur expérience. Voyons jusqu'où ils sont allés et à quoi ils se sont tenus. Les maladies et les défauts que nous trouverons en ce collège-là, le monde les pourra hardiment bien avouer pour siens. Quiconque cherche quelque chose, il en vient à ce point où qu'il dit qu'il l'a trouvé, ou qu'elle ne se peut trouver, ou qu'il en est encore en quête. Toute la philosophie est départie en ces trois genres. Son dessein est de chercher la vérité, la science et la certitude. Les péripatéticiens, épicuriens, stoïciens et autres ont pensé l'avoir trouvé. Ceux-ci ont établi les sciences que nous avons et les ont traitées comme notices certaines. Clitomachus, Carnéades et les académiciens ont désespéré de leur quête et jugé que la vérité ne se pouvait concevoir par nos moyens. La fin de ceci, c'est la faiblesse et humaine ignorance. Ce parti a eu la plus grande suite et les sectateurs les plus nobles. Pyrrhon et autres sceptiques ou épéchistes, de qui les dogmes plusieurs anciens ont tenu, tiré d'Homère, des sept sages et d'Archilochus et de Ripide et Iatage Zénon, Démocrite, Xénophane, disent qu'ils sont encore en cherche de la vérité. Ceux-ci jugent que ceux-là qui pensent l'avoir trouvée se trompent infiniment, et qu'il y a encore de la vanité trop hardie en ce second degré qui assure que les forces humaines ne sont pas capables d'y atteindre. Car cela, d'établir la mesure de notre puissance, de connaître et juger la difficulté des choses, c'est une grande et extrême science de laquelle il doute que l'homme soit capable. L'ignorance qui se sait, qui se juge et qui se condamne, ce n'est pas une entière ignorance. Pour l'être, il faut qu'elle s'ignore soi-même, de façon que la profession des Pyrrhoniens est de branler, douter et enquérir, ne s'assurer de rien, ne rien de se répondre. Des trois actions de l'âme, l'imaginative, l'appétitive et la consentante, ils en reçoivent les deux premières. La dernière, ils la soutiennent et la maintiennent ambiguë, sans inclination ni approbation d'une part ou d'autre, tant soit-elle légère. Zénion peignait de gestes son imagination sur cette partition des facultés de l'âme. La main épandue et ouverte, c'était apparence. La main à demi serrée et les doigts un peu croches, consentement. Le poing fermé, compréhension. Quand, de la main gauche, il venait encore à clore ce poing plus étroit, science. Or, cette assiette de leur jugement droite et inflexible, recevant tous objets sans application et consentement, les achemine à leur ataraxie, qui est une condition de vie paisible, assise, exempte des agitations que nous recevons par l'impression de l'opinion et science que nous pensons avoir des choses. D'où naissent la crainte, l'avarice, l'envie, les désirs immodérés, l'ambition, l'orgueil, la superstition, l'amour de nouveauté, la rébellion, la désobéissance, l'opiniâtreté et la plupart des maux corporels. Mais ils s'exemptent par là de la jalousie de leur discipline. Car ils débattent d'une bien molle façon. Ils ne craignent point la revanche à leur dispute. Quand ils disent que le pesant va contre bas, ils seraient bien maris qu'on les en crût, et cherchent qu'on les contredit pour engendrer la dubitation et surséance de jugement qui est leur fin. Ils ne mettent en avant leurs propositions que pour combattre celles qu'ils pensent que nous ayons en notre créance. Si vous prenez la leur, ils prendront aussi volontiers le contraire à soutenir. Tout leur est un. Ils n'y ont aucun choix. Si vous établissez que la neige soit noire, ils argumentent au rebours qu'elle est blanche. Et si vous dites qu'elle n'est ni l'un ni l'autre, c'est à eux à maintenir qu'elle est tous les deux. Si par certains jugements vous tenez que vous n'en savez rien, ils vous maintiendront que vous le savez. Oui, et si par un axiome affirmatif vous assurez que vous en doutez, ils vous iront débattant que vous n'en doutez pas, ou que vous ne pouvez juger et établir que vous en doutez. Et par cette extrémité de doute, qui se secoue soi-même, il se sépare et se divise de plusieurs opinions, de celles mêmes qui ont maintenu en plusieurs façons le doute et l'ignorance. Pourquoi leur sera-t-il permis, disent-ils, comme il est entre les dogmatistes, à l'un dire vert, à l'autre jaune, à eux aussi de douter? Est-il chose qu'on vous puisse proposer pour l'avouer ou refuser, laquelle il ne soit pas loisible de considérer comme ambiguë? Et où les autres sont portés, ou par la coutume de leur pays, ou par l'institution des parents, ou par rencontre comme par une tempête, sans jugement et sans choix, même le plus souvent avant la discrétion, à telle ou telle opinion, à la secte ou stoïque ou épicurienne, à laquelle ils se trouvent hypothéqués, asservis et collés, comme à une prise qu'ils ne peuvent démordre. Pourquoi, à ceux-ci, ne sera-t-il pareillement concédé de maintenir leur liberté et considérer les choses sans obligation et servitude? N'est-ce pas quelque avantage de se trouver désengagé de la nécessité qui bride les autres? Faut-il pas mieux demeurer en suspens que de s'infrasquer en tant d'erreurs que l'humaine fantaisie a produites? Vaut-il pas mieux suspendre sa persuasion que de se mêler à ces divisions séditieuses et querelles? Qu'irai-je choisir? Ce qu'il vous plaira, pourvu que vous choisissiez. Voilà une sotte réponse, à laquelle il semble pourtant que tout le dogmatisme arrive, par qu'il ne vous est pas permis d'ignorer ce que nous ignorons. Prenez le plus fameux parti. Jamais il ne sera ni sûr qu'il ne vous faille, pour le défendre, attaquer et combattre sans et sans contraire parti. Vaut-il pas mieux se tenir hors de cette mêlée? Il vous est permis d'épouser comme votre honneur et votre vie la créance d'Aristote sur l'éternité de l'âme, et de dire et de mentir Platon là-dessus, et à eux, il sera interdit d'en douter. Mais s'il est loisible à Panétius de soutenir son jugement autour des aruspices, songes, oracles, vaticinations, desquelles choses les stoïciens ne doutent aucunement, pourquoi un sage n'osera-t-il en toute chose ce que cet huissier ose en celle qu'il a apprise de ses maîtres, établi du commun, consentement de l'école de laquelle il est sectateur et professeur? Si c'est un enfant qui juge, il ne sait ce que c'est. Si c'est un savant, il est préoccupé. Ils se sont réservés un merveilleux avantage au combat, s'étant déchargés du soin de se couvrir. Ils ne leur importe qu'on les frappe pourvu qu'ils frappent, et font leur besogne de tout. S'ils vainquent, votre proposition cloche. Si vous, la leur. S'ils faillent, ils vérifient l'ignorance. Si vous faillez, vous la vérifiez. s'ils prouvent que rien ne se sache, il va bien. S'ils ne le savent pas prouver, il est bon de même. Et font état de trouver bien plus facilement pourquoi une chose soit fausse que non pas qu'elle soit vraie. Et ce qui n'est pas, que ce qui est, et ce qu'ils ne croient pas, que ce qu'ils croient. Leurs façons de parler sont « je n'établis rien », « ils n'en ont plus ainsi qu'ainsi » ou « que ni l'un ni l'autre », « je ne le comprends point », « les apparences sont égales partout », « la loi de parler est pour et contre est pareille », « rien ne semble vrai et qui ne puisse sembler faux ». Leur mot sacramental, c'est grec, c'est-à-dire « je soutiens, je ne bouge ». Voilà leur refrain et autres de pareille substance. Leur effet, c'est une pure, entière et très parfaite surséance et suspension de jugement. Ils se servent de leur raison pour enquérir et pour débattre, mais non pas pour arrêter et choisir. Quiconque imaginera une perpétuelle confession d'ignorance, un jugement sans pente et sans inclination, à quelque occasion que ce puisse être, il conçoit le pyrrhonisme. J'exprime cette fantaisie autant que je puis, parce que plusieurs la trouvent difficile à concevoir, et les auteurs même la représentent un peu obscurément et diversement. Quant aux actions de la vie, ils sont en cela de la commune façon. Ils se prêtent et accommodent aux inclinations naturelles, à l'impulsion et contrainte des passions, aux constitutions des lois et des coutumes, et à la tradition des arts. Ils laissent guider à ces choses-là leurs actions communes, sans aucune opination ou jugement. Qui fait que je ne puis pas bien assortir à ce discours ce qu'on dit de Pyrrhon. Ils le peignent stupide et immobile, prenant un train de vie farouche et inassociable, attendant le heurt des charrettes, se présentant au précipice, refusant de s'accommoder aux lois. Cela est enchérir sur sa discipline. Il n'a pas voulu se faire pierre ou souche, il a voulu se faire homme vivant, discourant et raisonnant, jouissant de tout plaisir et commodité naturelle, embesognant et se servant de toutes ses pièces corporelles et spirituelles, en règle et droiture. Les privilèges fantastiques, imaginaires et faux que l'homme s'est usurpé de régenter, d'ordonner, d'établir, il les a de bonne foi renoncés et quittés. Si n'est-il point de secte qui ne soit contrainte de permettre à son usage de suivre assez de choses non comprises, ni perçues, ni consenties, s'il veut vivre. Et quand il monte en mer, il suit ce dessein, ignorant s'il lui sera utile, et se plie à ce que le vaisseau est bon, le pilote expérimenté, la saison commode. Circonstances probables seulement. Après lesquelles il est tenu d'aller se laisser remuer aux apparences, pourvu qu'elles n'aient point d'express contrariété. Il a un corps, il a une âme, les sens le poussent, l'esprit l'agite. Encore qu'il ne trouve point en soi cette propre et singulière marque de jugé, et qu'il s'aperçoive qu'il ne doit engager son consentement attendu, qui ne peut être quelquefois pareil à ce vrai. Il ne laisse de conduire les offices de sa vie pleinement et commodément. Combien y a-t-il d'arts qui font profession de consister en la conjecture plus qu'en la science, qui ne décident pas du vrai et du faux et suivent seulement ce qu'il semble? Il y a, disent-ils, et vrai et faux. Il y a en nous de quoi le chercher, mais non pas de quoi l'arrêter à la touche. Nous en valons bien mieux de nous laisser manier sans inquisition à l'ordre du monde. Une âme garantie de préjugés a un merveilleux avancement vers la tranquillité. Gens qui jugent et contrôlent leurs juges ne s'y soumettent jamais dûment. Combien, et aux lois de la religion, et aux lois politiques, se trouvent plus dociles et aisés à mener les esprits simples et incurieux, que ces esprits surveillants et pédagogues des causes divines et humaines. Il n'est rien en l'humaine invention où il y ait tant de vérisimilitude et d'utilité. Cette-ci présente l'homme nu et vide, reconnaissant sa faiblesse naturelle, propre à recevoir d'en haut quelque force étrangère, dégarni d'humaine science et d'autant plus apte à loger en soi la divine, anéantissant son jugement pour faire plus de place à la foi. Ni mécréant, ni établissant aucun dogme contre les lois et observances communes, humble, obéissant, disciplinable, studieux, ennemi juré d'hérésie et s'exemptant par conséquent des vaines et irreligieuses opinions introduites par les fausses sectes. C'est une carte blanche, préparée à prendre du doigt de Dieu telle forme qu'il lui plaira d'y graver. Plus nous nous renvoyons et commettons à Dieu et renonçons à nous, mieux nous en valons. Accepte, dit l'Ecclésiaste, en bonne part les choses au visage et au goût qu'elles se présentent à toi du jour à la journée. Le demeurant est hors de ta connaissance. Voilà comment, des trois générales sectes de philosophie, les deux font express profession de dubitation et d'ignorance. Et en celle des dogmatistes, qui est troisième, il est aisé à découvrir que la plupart n'ont pris le visage de l'assurance que pour avoir meilleure mine. Ils n'ont pas tant pensé nous établir quelques certitudes que nous montrer jusqu'où ils étaient allés en cette chasse de la vérité. Quam docti fingunt, magis quam norunt. Qu'ils imaginent plutôt qu'ils ne connaissent. Timée, ayant à instruire Socrate de ce qu'il sait des dieux, du monde et des hommes, propose d'en parler comme un homme à un homme, et qu'il suffit, si ses raisons sont probables, comme les raisons d'un autre, car les exactes raisons d'être en sa main ni en mortelle main. Ce que l'un de ses sectateurs a ainsi imité, et cela sur le discours du mépris de la mort, discours naturel et populaire. Ailleurs, il l'a traduit sur le propos même de Platon. Aristote, lui, nous entasse ordinairement un grand nombre d'autres opinions et d'autres créances pour y comparer la sienne et nous faire voir de combien il est allé plus outre et combien il approche de plus près de la vérisimilitude. Car la vérité ne se juge point par autorité et témoignage d'autrui. Et pourtant, évitez religieusement Épicurus d'en alléguer en ses écrits. Cet huit-là est le prince des dogmatistes, et si nous apprenons de lui que le beaucoup savoir apporte l'occasion du plus douter, on le voit, escient, se couvrir souvent d'obscurité, si épaisse et inextricable, qu'on n'y peut rien choisir de son avis. C'est par effet un pyrrhonisme sous une forme résolutive. Oyez la protestation de Cicéron qui nous explique la fantaisie d'autrui par la sienne. Pourquoi, non Aristote seulement, mais la plupart des philosophes, ont-ils affecté la difficulté, si ce n'est pour faire valoir la vanité du sujet et amuser la curiosité de notre esprit, lui donnant ou se paître à ronger cet os creux et décharné. Clitomachus affirmait n'avoir jamais su, par les écrits de Carneades, entendre de quelle opinion il était. Pourquoi éviter aux siens Épicure la facilité Héraclitus en a été surnommé grec? La difficulté est une monnaie que les savants emploient comme les joueurs de passe-passe pour ne découvrir la vanité de leur art, et de laquelle l'humaine bêtise se paie aisément. Cicéron reprend aucun de ses amis d'avoir accoutumé de mettre l'astrologie, au droit, à la dialectique et à la géométrie plus de temps que ne méritait César, et que cela les divertissait des devoirs de la vie plus utiles et honnêtes. les philosophes cyrénaïques méprisaient également la physique et la dialectique. Zénon, tout au commencement des livres de sa République, déclarait inutile toutes les libérales disciplines. Chrysippus disait que ce que Platon et Aristote avaient écrit de la logique, ils l'avaient écrit par jeu et par exercice, et ne pouvaient croire qu'ils eussent parlé à certes d'une si vaine matière. Plutarque le dit de la métaphysique, Épicure l'eût encore dit de la rhétorique, de la grammaire, poésie, mathématique, et hors la physique de toutes les autres sciences. Et Socrate de toutes, sauf celle des mœurs et de la vie. De quelque chose qu'on s'en quitte à lui, il ramenait en premier lieu toujours l'enquérant à rendre compte des conditions de sa vie présente et passée, lesquelles il examinait et jugeait, estimant tout autre apprentissage subséquitif à celui-là et supernuméraire. La plupart des arts ont été ainsi méprisés par le même savoir, mais ils n'ont pas pensé qu'il fût hors de propos d'exercer leur esprit et chose même où il n'y avait nulle solidité profitable. Au demeurant, les uns ont estimé Platon dogmatiste, les autres dubitateur, les autres en certaines choses l'un et en certaines choses l'autre. Le conducteur de ces dialogismes, Socrate, va toujours demandant et émouvant la dispute, jamais l'arrêtant, jamais satisfaisant, et dit n'avoir autre science que la science de s'opposer. Homère, leur auteur, a planté également les fondements à toutes les sectes de philosophie pour montrer combien il était indifférent par où nous allassions. De Platon naquirent 10 sectes diverses, dit-on. Aussi, à mon gré, jamais instruction ne fut titubante et rien assévérante si la sienne ne l'est. Socrate disait que les sages-femmes, en prenant ce métier de faire engendrer les autres, quittent le métier d'engendrer elles. Que lui, par le titre de sage-homme que les dieux lui avaient déféré, s'était aussi défait en son amour viril et mental de la faculté d'enfanter, se contentant d'aider et favorir de son secours les engendrants. Ouvrir leur nature, graisser leur conduit, faciliter l'issue de leur enfantement, juger dit celui, le baptiser, le nourrir, le fortifier, l'emmailloter et circoncire, exerçant et maniant son engin aux périls et fortunes d'autrui. Il est ainsi de la plupart des auteurs de ce tiers genre, comme les anciens ont remarqué des écrits d'Anaxagoras, Démocritus, Parménide, Xénophane et autres. Ils ont une forme d'écrire douteuse en substance et en dessin, enquérant plutôt qu'instruisant. Encore qu'ils entresèment leur style de cadence dogmatiste. Cela se voit-il pas aussi bien en Sénèque et en Plutarque? Combien disent-ils, tantôt d'un visage, tantôt d'un autre, pour ceux qui y regardent de près? Et les réconciliateurs des jurisconsultes devaient premièrement les concilier chacun à soi. Platon me semble avoir aimé cette forme de philosopher par dialogue à Hésion pour loger plus décemment en diverses bouches la diversité et variation de ses propres fantaisies. Diversement traiter les matières est aussi bien les traiter que conformément et mieux, à savoir plus copieusement et utilement. Prenons exemple de nous. Les arrêts font le point extrême du parler dogmatiste et résolutif. Si est-ce que ceux que nos parlements présentent au peuple, les plus exemplaires, propres à nourrir en lui la révérence qu'il doit à cette dignité, principalement par la suffisance des personnes qu'il exerce, prennent leur beauté non de la conclusion qui est à eux quotidienne et qui est commune à tout juge, tant comme de la disseptation et agitation des divers et contraires ratiocinations que la matière du droit souffre. et le plus large champ aux répréhensions des uns philosophes à l'encontre des autres, se tire des contradictions et diversités en quoi chacun d'eux se trouve empêtré, ou par dessein, pour montrer la vacillation de l'esprit humain autour de toute matière, ou forcé ignoramment par la volubilité et incompréhensibilité de toute matière. Que signifie ce refrain ? En un lieu glissant et coulant, suspendons notre créance. Car, comme dit Euripide, les œuvres de Dieu en diverses façons nous donnent des traverses. Semblable à celui qu'Empédocle se met souvent en ses livres comme agité d'une divine fureur et forcé de la vérité. Non, non, nous ne sentons rien, nous ne voyons rien. Toutes choses nous sont occultes. Il n'en est aucune de laquelle nous puissions établir quelle elle est. Revenant à ce mot divin, il ne faut pas trouver d'étrange si gens désespérés de la prise n'ont pas laissé d'avoir plaisir à la chasse, l'étude étant de soi une occupation plaisante, et si plaisante, que parmi les voluptés, les stoïciens défendent aussi celle qui vient de l'exercitation de l'esprit. Ils veulent de la bride et trouvent de l'intempérance à trop savoir. Démocrite ayant mangé à sa table des figues qui sentaient le miel, commença soudain à chercher en son esprit d'où leur venait cette douceur inusitée, et pour s'en éclaircir, s'allait lever de table pour voir l'assiette du lieu où ces figures avaient été cueillies. Sa chambrière, ayant entendu la cause de ce remuement, lui dit en riant qu'il ne se peina plus pour cela, car c'était qu'elle les avait mises en un vaisseau où il y avait eu du miel. Il se dépita de quoi elle lui avait ôté l'occasion de cette recherche et dérobé matière à sa curiosité. « Va, lui dit-il, mais tu m'as fait déplaisir. Je ne resterai pourtant d'en chercher la cause comme si elle était naturelle. » Et volontiers lui faillit de trouver quelque raison vraie à un effet faux et supposé. Cette histoire d'un fameux et grand philosophe nous représente bien clairement cette passion studieuse qui nous amuse à la poursuite des choses de laquelle et qu'elle nous sommes désespérés. Plutarque récite un pareil exemple de quelqu'un qui ne voulait pas être éclairci de ce de quoi il était en doute pour ne perdre le plaisir de le chercher. Comme l'autre qui ne voulait pas que son médecin lui ôtât l'altération de la fièvre pour ne perdre le plaisir de l'assouvir en buvant. Tout ainsi qu'en toute pâture, il y a le plaisir, souvent seul, et tout ce que nous prenons, qui est plaisant, n'est pas toujours nutritif ou sain. Pareillement de ce que notre esprit tire de la science, ne laisse pas d'être voluptueux encore, qu'il ne soit ni alimentant ni salutaire. Voici comme ils disent, la considération de la nature est une pâture propre à nos esprits, elle nous élève et enfle, nous fait dédaigner les choses basses et terriennes par la comparaison des supérieures et célestes. La recherche même des choses occultes et grandes est très plaisante, voire à celui qui n'en acquiert que la révérence et crainte d'en juger. Ce sont des mots de leur profession. La vaine image de cette maladive curiosité se voit plus expressément encore en cet autre exemple qu'ils ont par honneur si souvent en la bouche. Eudoxus souhaitait et priait les dieux qu'il pût une fois voir le soleil de près, comprendre sa forme, sa grandeur et sa beauté, à peine d'en être brûlé soudainement. Il veut, au prix de sa vie, acquérir une science de laquelle l'usage et possession lui soient quand et quand ôtés. Et pour cette soudaine et volage connaissance, perdre toutes autres connaissances qu'il a et qu'il peut acquérir par après. Je ne me persuade pas aisément qu'Épicure, Platon et Pythagoras nous ayant donné pour argent comptant leurs atomes, leurs idées et leurs nombres, ils étaient trop sages pour établir leurs articles de foi de choses si incertaines et si débattables. Mais en cette obscurité et ignorance du monde, chacun de ces grands personnages s'est travaillé d'apporter une telle quelle image de lumière, et ont promené leur âme à des inventions qui eussent au moins une plaisante et subtile apparence, pourvu que toute fausse, elle se pût maintenir contre les oppositions contraires. Un ancien à qui on reprochait qu'il faisait profession de la philosophie, de laquelle pourtant, en son jugement, il ne tenait pas grand compte, répondit que cela s'était vraiment philosophé. Ils ont voulu considérer tout, balancer tout, et ont trouvé cette occasion propre à la naturelle curiosité qui est en nous. Aucune chose, ils ne les ont écrites pour le besoin de la société publique, comme leur religion, et a été raisonnable pour cette considération que les communes opinions, il n'ait voulu les éplucher au vif, aux fins de n'engendrer ni trouble en l'obéissance des lois et coutumes de leur pays. Platon traite ce mystère d'un jeu assez découvert, car où il écrit selon soi, il ne prescrit rien à certes. Quand il fait le législateur, il emprunte un style régentant et assévérant, et s'y mêle hardiment les plus fantastiques de ses inventions, autant utile à persuader à la commune que ridicule à persuader à soi-même. Sachant combien nous sommes propres à recevoir toutes impressions, et surtout les plus farouches et énormes. Et pourtant, en ses lois, il a grand soin qu'on ne chante en public que des poésies, desquelles les fabuleuses feintes tentent à quelque utile fin. Étant si facile d'imprimer tout fantôme en esprit humain, que cette injustice de ne les paître plutôt de mensonges profitables que de mensonges ou inutiles ou dommageables. Il dit tout détroussement sa république que pour le profit des hommes il est souvent besoin de les piper. Il est aisé à distinguer les unes sectes avoir plus suivi la vérité, les autres l'utilité, par où celles-ci ont gagné crédit. C'est la misère de notre condition que souvent ce qui se présente à notre imagination pour le plus vrai ne s'y présente pas pour le plus utile à notre vie. Les plus hardies sectes épicuriennes, pyrrhoniennes, nouvelles académiques, encore soient-elles contraintes à se plier à la loi civile au bout du compte. Il y a d'autres sujets qu'ils ont belutés, qui à gauche, qui à dextre, chacun se travaillant d'y donner quelques visages à tort ou à droit. Car n'ayant rien trouvé de si caché de quoi il n'ait voulu parler, il leur est souvent forcé de forger des conjectures faibles et folles. Non qu'ils les prissent eux-mêmes pour fondement, ni pour établir quelques vérités, mais pour l'exercice de leur étude. Et si on le prenait ainsi, comme couvririons-nous une si grande inconstance, variété et vanité d'opinion que nous voyons avoir été produites par ces âmes excellentes et admirables? Car, pour exemple, qu'est-il plus vain que de vouloir deviner Dieu par nos analogies et conjectures, le régler et le monde à notre capacité et à nos lois, et nous servir aux dépens de la divinité de ce petit échantillon de suffisance qui lui a plu départir à notre naturelle condition, et parce que nous ne pouvons entendre notre vue jusqu'à son glorieux siège, l'avoir amené sabbat à notre corruption et à nos misères. De toutes les opinions humaines et anciennes touchant la religion, celle-là me semble avoir eu plus de vraisemblance et plus d'excuses qui reconnaissait Dieu comme une puissance incompréhensible, origine et conservatrice de toutes choses, toute bonté, toute perfection, recevant et prenant en bonne part l'honneur et la révérence que les humains lui rendaient sous quelque visage, sous quelque nom et en quelque manière que ce fût. Ce zèle universellement a été vu du ciel de bon œil. Toutes polices ont tiré fruit de leur dévotion. Les hommes, les actions impies ont eu partout les événements sortables. Les histoires païennes reconnaissent de la dignité, de l'ordre, de justice et des prodiges et oracles employés à leur profit et instruction en leur religion fabuleuse. Dieu, par sa miséricorde, daignant à l'aventure fomentée par ses bénéfices temporels, les tendres principes d'une telle quelle brute connaissance que la raison naturelle leur donnait de lui au travers des fausses images de leurs songes. Non seulement fausses, mais impies aussi et injurieuses sont celles que l'homme a forgées de son invention. Et de toutes les religions que saint Paul trouva en crédit à Athènes, celle qu'ils avaient dédiée à une divinité cachée et inconnue lui sembla la plus excusable.